sortir là, allez là.
Sortez, ça fait trop du bien, ça
dégourdit
les jambes, allez-y.
J'adore sortir, moi je sors tout le temps.
Mais putain, sortez chez vous,
je sors encore plus. La fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête, sortez.
Oui, franchement, c'est trop chouette, c'est trop intéressant. Allez-y quoi.
Sortez.
Vous voulez sortir?
Vous
sortez.
Je suis chaud comme un chocolat.
Vous sortez tous avec nous.
Sors.
Il est 16h sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM, et vous écoutez l'émission Sortez. Je suis comme toujours accompagné de Marie. Salut Marie.
Bonjour Samuel.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir trois personnes de la jeune troupe du Centre National Dramatique de Tours, le Théâtre Olympia. Sont avec nous Lara Melchiori, chargée de production, et deux comédiens, Luca Mavae-Tao et Félix Amar. À l'occasion du Wet Festival qui revient pour une 9e édition du vendredi 28 au dimanche 30 mars. Bienvenue à tous les trois. Comment allez-vous?
Bonjour.
Merci.
Bonjour.
Merci.
Bonjour.
Merci pour votre invitation. Et avec grand plaisir, on espère que ça va. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez présenter donc la jeune troupe, qui la compose et comment s'est-elle formée?
Vas-y Félix. Okay. Vas-y.
Elle est formée actuellement de 5 comédiens et comédiennes, de 2 techniciens et d'une technicien son et lumière, et d'une chargée de production. Donc nous sommes 8. Et on a été recrutés à différents moments, différentes périodes de la saison. Mais je ne vais pas forcément m'attarder sur les détails là, je pense. Et voilà, donc le JTRC, à la base, c'est Jeune Théâtre en région Centre-Val de Loire, et qui est plus devenu actuellement, là, dans les plus communément appelés Jeunes Troupes du Théâtre Olympia. Et voilà, je ne sais pas si vous voulez continuer.
C'est une jeune troupe qui est engagée en général pour 2 saisons, donc 2 ans, et qui se renouvelle après tous les 2 ans. C'est un dispositif d'insertion, autant en technique qu'en production, que pour les artistes.
Oui, c'est ça. Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter, en vrai. C'est ça. La particularité, c'est que aussi nous, en tant que comédiens et comédiennes, on sort tous d'école nationale. Donc on a tous eu un cursus avant, donc là c'est pas un endroit de formation le JTR, c'est vraiment un endroit d'insertion professionnelle, donc on a tous déjà eu des petites expériences avant et ça nous pousse, ça nous aide vraiment dans la voie professionnelle, donc voilà.
Et puis aussi on a différentes missions à l'intérieur de aussi, ça, on est à la fois comédien, comédienne pour des productions du théâtre, des productions qui tournent soit en collège, soit là prochainement, pour la saison prochaine, un spectacle qui va tourner en salle. Et on a aussi des ateliers à faire, à donner auprès de différents publics. Et on a cette particularité aussi de programmer un festival, le festival WET, dont on parlera sans doute pendant cette séance.
Et on vient tout de suite au festival WET. Donc ça fait 9 ans qu'il existe. Quels sont ses objectifs et ses principes?
Alors, c'est un festival de jeunes créations. Il y en a plusieurs en France, mais la particularité de celui-là, c'est qu'il est programmé par la jeune troupe du théâtre. Et donc, c'est des jeunes artistes, des artistes émergents et émergentes qui sont programmés par des jeunes, pour des jeunes et beaucoup plus. Souvent, c'est des formes qui sont assez singulières, assez originales.
C'est compliqué de parce que t'as assez bien résumé la chose, mais oui c'est ça, c'est il y a la question de la prise de risque aussi un peu dans les formes qu'on repère, enfin qu'on choisit en tout cas. Il y a de ça, il y a et c'est surtout un truc du renouveau un peu aussi, j'ai l'impression. Ce festival là, ça fait 9 ans que ça existe et c'est une espèce de phare pour aussi la jeune création, j'ai l'impression, en tout cas. Donc, c'est ça, pour toutes ces raisons, ouais. Carrément.
Ouais, et je crois, enfin, dans les principes aussi, je pense que tu l'as dit, Lara, je ne sais plus, mais la question de la visibilité, aussi rendre visible tout à coup des jeunes compagnies qui n'ont pas encore forcément la possibilité d'être programmées dans des CDN.
C'est ça, l'idée, c'est de soutenir les artistes émergents.
Ouais.
Plutôt, oui. Si je ne dis pas de bêtises.
Exactement.
C'est carrément ça, ouais.
Et puis, aussi des partis pris risqués, entre guillemets, dans l'esthétique, dans la forme.
Donc l'audace dans l'émergence.
Exactement. Et puis, il y a aussi le fait que c'est un festival qui a un double public, le public tourangeau, et aussi un public de professionnels de la culture, puisque c'est un endroit de visibilité. Au fur et à mesure des années, le festival a acquis une renommée professionnelle assez importante, et on a des pros, des programmateurs, programmatrices qui se déplacent de partout en France et voire même de l'étranger pour venir assister à ce festival. Et chaque année, on est vraiment ravis de voir qu'il y a plusieurs spectacles qui sont programmés au festival, qui sont après reprogrammés ailleurs dans d'autres lieux des suites de ce festival. Et c'est vraiment un des buts aussi professionnels pour les compagnies.
Et alors, Luca, tu disais que vous êtes tous issus de centres nationaux. Quels ont été vos parcours avant d'arriver dans la jeune troupe du Théâtre Olympia?
Moi, on ne vient pas tous de centres dramatiques nationaux. Enfin, les écoles nationales sont des fois rattachées à des centres dramatiques nationaux. Comme par exemple, moi, mon école, j'ai fait Limoges.
C'est moi qui ai fait l'amalgame entre écoles nationales et centres dramatiques.
Ouais, il n'y a pas de souci. Mais parce qu'il y a certaines écoles qui sont accolées à des centres dramatiques nationaux, comme l'école que j'ai faite, qui est celle de Limoges, qui est accolée au Théâtre de l'Union. Donc moi, j'ai fait ça. J'ai fait l'Académie de l'Union. Enfin, maintenant, ça s'appelle l'ESTU, l'École supérieure du Théâtre de l'Union. J'en suis sorti en 2022 et après dis-nous ton parcours.
J'ai été en Belgique moi faire mon école et du coup j'ai été faire le Conservatoire Royal de Liège qui est en gros c'est l'école supérieure c'est l'école supérieure des acteurs et des actrices de Liège et voilà qui a duré 4 ans par rapport aux écoles en France qui durent 3 ans et après ma quatrième année, moi j'ai été pris, enfin j'ai peu attendu, j'ai eu un peu la chance là, je crois, de peu attendre et d'être pris au Centre Dramatique National à Tours, ici. Et les autres comédiennes de la jeune troupe, qui sont Claire, Joséphine et Camille, viennent respectivement de Claire de Montpellier, Joséphine vient d'Écosse, enfin elle a fait une école en Écosse. Et Camille, qui a aussi fait une école à Montpellier. Voilà.
Faisons un point sur cette belle programmation. Quels sont les temps forts du festival?
On a zappé Lara, là.
Il n'y a pas de souci. C'est en production, il y a beaucoup moins de formations que pour les artistes. Moi, en ce qui me concerne, j'ai fait un master de métier de la production théâtrale en alternance à la Sorbonne Nouvelle. Et nos deux techniciens de la jeune troupe ont fait le DNMAD de Nantes.
Et pourquoi il n'y a pas autant d'études de programmation?
Alors déjà, en soi, la programmation, ça ne s'étudie même pas du tout. Et la production, c'est une très bonne question. Y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Peut-être parce qu'il y a aussi moins de demandes.
Oui, carrément.
Voilà.
Et donc... J'en viens même.
C'est aussi des métiers qui sont beaucoup plus invisibilisés et dont on parle moins, en fait, aussi, malheureusement. Enfin, parce que aussi, je sais pas, enfin, j'en sais rien, mais dans les génériques de spectacles, quand dans les saisons qui sont programmées, souvent, on nomme les metteurs et metteuses en scène, et encore les acteurs et les actrices, mais rarement aussi les personnes
qui
sont...
Celui qui les place.
Comment ?
Ceux qui les placent.
Ceux qui les placent, les metteurs en scène. Oui, c'est pas forcément que du placement, mais c'est aussi de... quel parti pris esthétique ou artistique ils prennent en fonction de telle œuvre qu'ils veulent monter et qu'est-ce qu'ils veulent dire, on peut pas forcément dire en fait, mais qu'est-ce qu'ils veulent mettre en scène, quoi. Voilà.
Et donc, quels sont les temps forts du festival?
Ah oui. Le festival, il se découpe. Il y a 8 spectacles déjà qui sont programmés dans ce festival-là. Donc les spectacles ne se jouent pas forcément. Au Théâtre Olympia, ça se joue un peu partout dans Tours. Il y a au CCNT, à la Pléiade, à l'Escale, et aussi à l'Hôtel Gouin.
Et
au Petit Faucheux, je l'oublie tout le temps. Je suis désolé à l'équipe du Petit Faucheux, je vous adore, mais je vous oublie tout le temps. Donc il y a ces temps-là des spectacles, donc de rencontres avec le public, tout ça, mais il y a aussi des moments un peu plus de rencontres un peu plus professionnelles. Donc il y a aussi les rencontres Arsena. Qui a le samedi après-midi, on appelle ça les petits déjeuners professionnels le matin. Donc on invite les pros qui sont venus, qui viennent au festival à prendre un petit déj tous ensemble au Théâtre Olympia. Donc il y a ces moments-là, et après il y a un autre temps fort aussi, c'est la fête de clôture du dimanche soir, Donc voilà, donc je sais, j'imagine qu'on en reparlera peut-être un peu plus après, mais. Et donc voilà, ce festival s'articule autour de ces 8 spectacles, ces temps de rencontres et aussi ce temps de fête. Je ne sais pas si vous voulez peut-être qu'on parle des spectacles ou...
On fera peut-être un point plus détaillé sur la programmation après.
Carrément.
Par contre, ce qui nous intéresse, c'est comment vous les avez sélectionnés, ces compagnies présentes, donc pour cette 9e édition du Wet Festival.
Alors, c'est une bonne question. Donc, tout commence par un premier contact avec différentes compagnies. Il y a des compagnies qui nous écrivent pour candidater au festival. Il faut savoir qu'on a reçu plus de 300 candidatures cette année, et c'est à peu près la même chose tous les ans. Et ensuite, nous, on a aussi une veille sur les lieux qui programment des artistes émergents et émergentes. Et donc ensuite, on se déplace au maximum de nos possibilités en repérage. On essaie de se déplacer pas seulement à Paris, ce qui est le plus facile, le plus proche. Voilà, on essaie de diversifier les lieux où on se rend. Et on a aussi ouvert la programmation aux captations. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 3 spectacles, là, par exemple, dans la programmation, qu'on n'a pas vus en vrai. On les a vus seulement en captation vidéo. Et donc, on les a programmés comme ça. Donc, ça, c'est la première étape des repérages.
Et après, oui, il y a beaucoup de réunions autour de ces visionnages de spectacles, de ces temps de rencontre avec les compagnies et tout ça. Donc on en discute beaucoup. Il n'y a pas quelqu'un qui impose une vision sur un spectacle ou une chose comme ça. C'est vraiment un truc collectif où nous huit, on se pose les questions déjà souvent ça arrive. C'est sûr, il y a des coups de cœur, il y a des choses comme ça. Donc on en discute de ces coups de cœur, de comment ça marche. Enfin, pourquoi on a eu un coup de cœur.
Tout le monde n'a pas les mêmes coups de cœur.
Tout le monde n'a pas les mêmes coups de cœur. Et c'est ça, c'est hyper intéressant. Mais au-delà du coup de cœur, de j'aime ou j'aime pas, il y a aussi des questions de la pertinence. À, par exemple, s'il y a une compagnie qu'on estime, c'est vraiment là, c'est. C'est des critères que nous on s'est donné entre nous, qu'on estime être un peu trop repéré, par exemple, on va se dire ah peut-être que on va le mettre en choix bis ou des choses comme ça, parce que l'important c'est aussi de d'apporter une visibilité à ces compagnies-là qu'elles n'ont pas forcément, et donc oui, il y a ça, et donc du coup ces réunions-là sont hyper fournies, quoi, parce qu'on discute de toutes ces choses. Et après, on arrive plus ou moins à faire une espèce de liste. On dit, oui, bon, bah, ça, on peut garder. Si on ne garde pas, bon, ça, choix bis, choix tiers. Enfin, on essaie d'organiser un peu nos choix. Et puis, à la fin, ça se fait un peu naturellement. Quand même. J'ai l'impression que cette année, ouais, ça se fait assez naturellement, ouais, quand même, sur le choix, à la fin. Ouais.
Oui. On a quand même beaucoup discuté, beaucoup débattu, vraiment. C'est-à-dire qu'on part quand même des fois de spectacles où, quand on est tous les 8 autour d'une table, il y a quelqu'un qui dit « Ah, mais j'ai adoré ce spectacle, j'ai un coup de cœur », et quelqu'un en face qui dit « J'ai détesté ce spectacle ». On est là « Bon, 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 mais on va faire une programmation tous ensemble. »
On va discuter, on va voir.
On va parler.
Et il y a aussi toute la question de l'émergence aussi, parce qu'on se doit, on dit « C'est un festival d'émergence », mais cette question de l'émergence est hyper... galvaudée dans le sens où elle a été utilisée à tort et à travers par toutes les sauces, quoi. Et il y a beaucoup de festivals dits d'émergence, et donc nous on s'est aussi posé la question dans cette espèce de ligne directrice et artistique de se dire qu'est-ce que c'est pour nous l'émergence, et en fait on s'est rendu compte que c'était vraiment au cas par cas, qu'il y a des compagnies qui, parce qu'ils sortent d'école, ont beaucoup plus d'aide que des compagnies qui ne sortent pas d'école nationale, et donc qui ont déjà un tout premier spectacle qui est déjà subventionné, qui est déjà soutenu par des départements, des régions, par des lieux partenaires et tout ça, et d'autres compagnies qui n'ont pas fait d'école, qui doivent faire par exemple 3-4 spectacles avant qu'ils commencent à être soutenus par des lieux. Et donc on s'est rendu compte que c'était vraiment du cas par cas. On s'est dit aussi qu'il n'y avait pas de question d'âge. En fait, à un moment dans la liste, il y avait aussi la question d'un metteur en scène qui avait une quarantaine d'années, où on s'est dit ce n'est pas des questions d'âge, quoi. Et c'était voir aussi, peut-être il y a des compagnies qui pêchent aussi à réussir à sortir de leur région et à se dire comment les rendre plus visibles et donner de la visibilité à ces personnes-là. Parce que oui, comme ce que disait Lara, c'est que c'est des professionnels qui viennent aussi du territoire national, de partout, et d'ailleurs aussi même. Et aussi voir si c'est le bon moment aussi pour les compagnies d'être visibilisées à ce point. Des fois, c'est trop frais ou des fois, c'est trop fragile. Ouais.
Mais une évaluation et de la maturité du projet aussi.
Oui.
Oui. Mais parce qu'il ne faut pas que ça les desserve. Enfin, je veux dire, à l'endroit où on les amène, s'ils se cassent la gueule, c'est à double tranchant. C'est rédhibitoire. C'est rédhibitoire. Et c'est une tâche qui est quand même assez lourde. Je pense que, bon, en tout cas, moi, je ne me rendais pas compte avant de participer à cette programmation. Mais c'est vrai que c'est assez important. Quoi. Et la question de l'émergence, on la questionne tout le temps. Parce que, comme a dit Félix, elle a été utilisateur et à travers. Et qu'est-ce que pour nous ça veut dire ? C'est hyper important, en tout cas pour nous, de vraiment se poser la question tout le temps. Même quand à chaque réunion, on se repose tout le temps la question, genre, mais oui, mais d'accord, mais qu'est-ce que c'est du coup l'émergence à ce moment-là pour eux, à quel endroit on est ? Et ça, c'est hyper important. Ouais.
Parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui ne parlent pas d'émergence, mais qui parlent d'immergence.
Ouais.
Et c'est toutes ces autres compagnies qui, ne sortent pas du lot, entre guillemets, quoi, qui n'ont pas la chance, entre guillemets, de participer à des festivals d'émergence, mais qui auraient le mérite aussi d'être visibilisé, dans le sens aussi où en fait c'est une grande richesse d'avoir toutes ces personnes, toutes ces compagnies en fait sur le territoire national qui ont plein de diversité artistique, quoi, et qu'on ne visibilise pas.
Et alors, avant qu'on se penche un peu plus sur la programmation, qui sont les partenaires, pardon, de ce festival sur cette année?
Alors, nous avons déjà les partenaires, les salles partenaires avec qui on travaille cette année, je l'ai redit pour le plaisir. Donc, le Petit Faucheux, la Pléiade avec la ville de La Riche, l'Escale avec la ville de Saint-Cyr-sur-Loire, le Centre chorégraphique national de Tours et l'Hôtel Gouin. Et on a aussi tous nos partenaires institutionnels, la région, le département, la métropole, la ville de Tours. Et aussi tous nos partenaires au niveau du réseau plutôt du spectacle vivant, donc Arsena, Cénocentre et Puissance 4. Mmh. Et tous nos partenaires médias aussi, La Terrasse, Les Inrecuptibles, L'Huile d'Olivier et Radio Béton. Voilà, j'ai fini.
Merci à vous pour cette belle présentation. On va pouvoir y revenir plus en profondeur. Faisons une pause musicale sur Radio Campus. Que va-t-on écouter, Marie ?
On écoute deux titres, donc la dernière sortie de Miel de Montagne, Le Roi Soleil, en attendant la sortie de son album Ouin Ouin le 4 avril, et TNO de La Chica et El Duende. Thank you.
Soy el viento, soy el solar, alimento en mi mundo, soy la ley. Soy la lluvia, soy la magia adecuada en tu vida para bien. Soy el viento, soy el solar, alimento en mi mundo, soy la ley. Soy el agua, soy la maga en tu vida, baby, tranqui, todo bien. Baby, tranqui, todo bien. Baby, tranqui, todo bien. Solamente acepta el caos que lidera mi vida. Te caigo del cielo, ni siquiera sabes qué hacer conmigo. Esa brosura de mente que sientes como cosquilla. Tragas todo lo que no acepto yo. Somos muchas muchachas encerradas en el mismo cuerpo. No nos importa de pana, ni un comino, ni nada. Te quieres meter conmigo, no creo que salgas vivo. Soy hija del viento y del asfalto, bruja híbrida.
Vous venez d'écouter Miel de montagne avec Le Roi Soleil et La Chica et El Duende avec TNO sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. On s'intéresse de plus près à nos invités de la jeune troupe du Centre National Dramatique de Tours, le Théâtre Olympia, à l'occasion du Wet Festival du 28 au 30 mars. On l'a dit, on va faire un petit zoom, enfin même un bon gros zoom sur cette programmation. Est-ce qu'on peut donc passer en revue ces 8 spectacles, vous l'avez dit, qui sont à l'affiche?
Tu veux commencer, Lara? Tu veux...
Ouais, on fait un petit tour d'horizon, du coup, d'abord des spectacles, juste en les listant.
Ouais, ouais.
Donc, il y a Chimère de la compagnie Le Comité, qui jouera au Théâtre Olympia le samedi soir. Homer de la compagnie La Hutte, qui jouera le vendredi soir et le dimanche soir au Théâtre Olympia également. Je n'ai pas le don de parler de la compagnie de la Décision, qui jouera au Centre chorégraphique national de Tours vendredi soir et samedi matin. 35040 de la compagnie du Touvent, qui jouera 5 fois à l'Hôtel Gouin vendredi soir, samedi après-midi, samedi soir, dimanche en début d'après-midi et en fin d'après-midi. Requin velours de la compagnie Sorimum, qui jouera à la Pléiade samedi soir et dimanche après-midi. C'est un réflexe nerveux, on n'y peut rien, qui jouera de la compagnie La Mésaphélis, qui jouera au Petit Faucheux samedi soir, dimanche matin et dimanche soir. Lucky Flash de la compagnie Grièche à poitrine rose, qui jouera à l'Escale à Saint-Cyr samedi après-midi. Multigrouille de la collective Fléchir le vide en avant en faisant une torsion de côté, qui jouera au Théâtre Olympia samedi matin et dimanche matin. Et la soirée de clôture Amour Super de la même collective, allez je le redis, vas-y, pour la beauté du geste, Fléchir le vide en avant en faisant une torsion de côté, qui jouera au Théâtre Olympia dans le hall le dimanche soir.
Et ce marathon verbal est terminé.
Et ce marathon est terminé.
Dans cette sélection de compagnies émergentes, qu'est-ce qui vous a séduit dans leurs différents projets?
Je pense que c'était la ce qui nous a séduit, c'était la comment dire, j'ai envie de dire la sincérité du propos artistique, mais je pense que j'utilise un peu des gros mots, mais je pense que ce qui nous a séduit surtout, c'est que c'était des personnes, c'était des compagnies qui allaient au bout du geste, c'est-à-dire qui développent une forme, donc quelque chose, un truc formel, et qui vont au bout, et qui vont au bout. Et ça, c'est, je pense que c'est assez important à souligner, parce que c'est pas... moi, je trouve qu'il n'y a pas de truc que de forme ni que de fond, c'est tout est un mélange assez bien exécuté, et je crois que c'est surtout ça, nous, qui nous a plu dans ces compagnies-là. Oui, c'est vraiment la question... la question d'aller au bout du geste, d'aller vraiment... Enfin, je ne sais pas si tu veux compléter ce que je dis.
D'accord.
Non, mais je ne sais pas, si je pensais que j'avais l'impression.
Non,
que
non, je suis complètement d'accord avec toi. Je compléterai peut-être en disant aussi que c'est... qu'au-delà de simplement de formes divertissantes, entre guillemets,
ouais, c'est, ça.
C'est aussi ouais, c'est des partis pris radicaux et qui attachent... à la fois de l'importance à comment raconter un contenu et de se dire ben, de toute cette question de la forme. Et je pensais à autre chose, mais j'ai oublié. tant pis.
Bah, moi, ce que je trouve aussi intéressant, mais dans l'ensemble de la programmation, c'est que les spectacles sont assez complémentaires. En fait, le fait qu'ils soient très différents les uns des autres. Par exemple, si on prend seulement le point de vue du texte, il y a un spectacle où le texte aura été écrit spécialement pour l'occasion, mais c'est vraiment un texte écrit. Un autre qui va être une adaptation d'un auteur classique. D'autres où il n'y aura même pas de texte. D'autres où ça va être de l'écriture de plateau, plus donc qui se trouve et qui se construit au moment de la création du spectacle. Donc là, je prends juste l'endroit du texte, par exemple, mais à tout niveau, c'est vraiment très différent et très complémentaire.
Oui. Ce qui est souvent indicatif d'une programmation bien réalisée.
c'est simple, on verra.
Est-ce qu'il y a donc des thématiques abordées dans les pièces qui vous tiennent particulièrement à cœur? Et d'ailleurs, je viens de voir le mot pièce. Est-ce que c'est juste d'utiliser le mot pièce?
Oui,
c'est vrai que il y a après 35-040, moi j'ai l'impression qu'il y a un plus un truc de l'ordre de la performance quand même, de la performance, mais qui reste théâtralisée dans tous les cas, et du coup on peut rapprocher en pièce, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ce qui les rapproche tous aussi, c'est que il y a un endroit, moi je trouve, un peu performatif dans la construction de leur projet, mais la question, je l'ai oubliée.
La question était, est-ce que les thématiques abordées dans ces pièces qui vous tiennent à cœur?
Ah oui.
Moi, j'ai une réponse.
Vas-y, fonce.
Alors, moi, je trouve que les thématiques, elles sont assez différentes les unes des autres, mais qu'il y a des choses dans le fond, dans ce qui émerge des spectacles au fur et à mesure, qui se rapprochent entre plusieurs spectacles. On retrouve beaucoup la volonté de se questionner sur comment on raconte les histoires, comment on raconte notre histoire, quelles traces on laisse sur le...
Donc sur la narration ?
Oui, mais vraiment sur un sens très large, sur quelles traces on peut laisser d'une époque, quelles traces des personnes peuvent laisser, qu'est-ce qui peut se construire en commun avec le côté très collectif du théâtre. Voilà, c'était ça ma réponse. Ouais.
Moi, je te rejoins là-dessus et j'aimerais aussi dire, moi, que ce qui m'a particulièrement touché, et que en fait, je ne m'étais pas forcément rendu compte en faisant la programmation, mais qu'après coup, en lisant, en retrouvant en fait, sur chacun des spectacles aussi ce dont ça raconte et tout ça, il y a un rapport aussi, je trouve, sur dans une situation où tout à coup, tout est bloqué et tout est... on arrive, on est face à un mur et on est dans des situations bloquées qui sont... où il y a peu d'échappatoires, c'est comment à partir de ça on arrive à trouver justement des échappatoires et des bulles d'air, des moments où tout à coup on arrive à trouver des choses libératrices, des choses émancipatrices et de résilience, mais bon, j'aime pas ce mot parce qu'il est utilisé partout.
Porteur d'espoir.
Mais voilà, de choses où tout d'un coup il y a de nouveaux récits qui se racontent et aussi à partir du réel, comment on retransforme le réel pour raconter autre chose, pour porter d'autres espoirs. Pour tout ça et qui font du bien.
Oui, merci d'avoir j'ai eu le temps de réfléchir. Moi, ce qui m'a touché, c'était aussi la question du corps, comment le corps, l'acteur ou l'actrice au travail était, enfin au plateau en tout cas. Je trouve qu'il y a des corporalités qui sont folles. Enfin, ils ont trouvé des choses assez dingues au plateau, et je crois que ça, moi, c'est un des critères. Une des choses que je me pose le plus en question quand je vois un spectacle, c'est où est la place du corps là-dedans, un peu comme une chorégraphie finalement, mais comment le corps se place. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a touché dans cette programmation, c'est que je trouve qu'ils ont cherché quelque chose dans la qualité de corps, donc ça en découle sur la qualité de parole et sur la qualité d'écoute de certaines choses au plateau qui me touchent beaucoup, moi en tout cas.
Ouais. Ce qui est une très belle réponse.
Il y a deux spectacles, Accès Jeune Public, Multigrouille et 35040. Quel récit raconte ces spectacles?
Alors, Multigrouille, ça raconte l'histoire d'un microcosme, insectoïde, où plein de choses se passent, et il y a une ressource naturelle qui permet d'alimenter tout ce microcosme insectoïde qui s'appelle la loupiote. Et au bout d'un moment, la loupiote commence à disparaître. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus ce qui nous permet de vivre? Comment on fait dans l'obscurité totale? Donc voilà de quoi parle Multigrouille. Donc c'est une forme marionnettique. Je peux dire ça comme ça. Comme son nom l'indique, marionnettique. Donc avec des présences de matériaux de marionnettes, d'un peu tout, de lumière, de son. Enfin, c'est vraiment tout. C'est une espèce d'expérience sensorielle aussi, un peu.
Ouais, y a un vrai rapport à la matière aussi, au toucher, au son.
On ne sait pas si on est dans une grotte ou si on est un peu sous l'eau. C'est assez flou. Et si je peux me permettre de compléter, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce spectacle-là, c'est que ça m'a fait un petit peu penser au film de Miyazaki, puisqu'il y a une véritable question écologique de qu'est-ce qui se passe quand on puise trop dans une énergie naturelle, mais en même temps c'est pas un, il y a pas un message écologique très didactique, ça passe vraiment plus par la poésie, par quelque chose qui se dépose sans aucune morale. C'est très bien fait et je trouve ça très très beau.
Ouais, ça prend le temps de se vivre au plateau en même temps, et c'est surtout dans un monde où tout va trop vite, ça fait du bien de prendre le temps de voir comment les choses se développent, quoi.
Et moi, j'avais posé la question, et dans le cas de 35040, si je peux le prononcer comme ça, quel est le récit du coup de ce spectacle?
Et ben, donc 35040 ou 35040, c'est en effet un code postal. C'est le code postal de la ville de naissance, si je ne dis pas de bêtises, du metteur en scène, qui est Alessandro Businaro. Et en fait, c'est un spectacle italien qu'on a sélectionné, qui est le seul spectacle italien de la programmation, j'allais dire étranger, mais en fait il y a aussi Chimère, qui est un spectacle belge. Et parce qu'en fait, le théâtre, depuis la direction de Bérangère Ventusso, fait un temps fort chaque année à un pays européen. Et là, cette année, sur cette saison, c'était l'Italie. Et donc il y avait eu deux metteurs en scène qui avaient été invités en novembre dernier dans la saison. Et donc nous, on a aussi pris le parti d'inviter un spectacle italien de ce pays invité au sein du WET. Et donc 35040. Et donc c'est le code postal de la ville de naissance du metteur en scène. Et c'est de l'ordre de la performance aussi, parce que les spectateurs et spectatrices sont invités à prendre part au spectacle. Au début, j'allais me mettre à raconter le spectacle, mais je ne vais pas faire ça, parce que je vais laisser la surprise aussi aux gens. Mais l'idée, c'est c'est une forme de communion collective autour de ce que c'est une maison, ce que c'est les souvenirs liés à une maison. Qu'est-ce qu'on se raconte collectivement de ce qu'il peut y avoir par rapport à qu'est-ce qu'on rêve d'une salle à manger, qu'est-ce qu'on rêve d'un salon, par exemple, ou qu'est-ce qu'on pourrait y mettre collectivement pour aussi construire tout à coup une maison ensemble avec nos propres souvenirs et nos souvenirs collectifs là au moment de la représentation avec les spectateurs et spectatrices. Et donc il y a un acteur seul en scène qui vient performer toute cette maison-là avec les souvenirs qui sont reliés au début à ceux du metteur en scène et à ses propres souvenirs vis-à-vis de la maison, de sa maison d'enfance. et après qui invite du coup les spectateurs aussi à partager leurs souvenirs autour de ça. Et donc c'est chaque représentation est un peu unique parce que à chaque fois c'est des spectateurs différents qui viennent et qui des choses différentes vont se raconter, des souvenirs différents, et donc il y a d'autres émotions qui arrivent aussi. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter des trucs.
Peut-être le fait que ce côté interactif, le support de ça, c'est une carte, un plan d'une maison qui est distribué à chaque personne du public avec un petit crayon et des questions liées à ce plan du type quelle est la première chose que tu fais en rentrant chez toi, quel est ton plus vieux souvenir dans ta chambre d'enfant, et c'est à partir de ça que le performeur va récolter les souvenirs dont parlait Félix et donc construire cette maison commune qui existe seulement le temps de la représentation et qui est unique.
Et donc cette année, le festival a la particularité, vous l'avez dit, d'accueillir donc des artistes italiens et belges. C'était important pour vous de vous ouvrir à une dimension européenne ?
Oui, je pense, parce que la question de l'émergence théâtrale, enfin, en tout cas culturelle, elle n'est pas inhérente à la fois. Ça n'existe pas qu'en France, en tout cas. Mais en fait, de par le fait aussi que les écoles nationales qu'on a faites, Félix et moi, par exemple, Félix était en Belgique, et le réseau d'écoles nationales aussi fait que c'est dans les pays francophones, donc il y en a en Suisse aussi, il y a une école en Suisse, il y en a plusieurs en Belgique, il y en a en métropole, en France métropolitaine, et donc du coup, cette ouverture-là, en fait, elle se fait assez naturellement, j'ai l'impression, dès nos formations, par rapport aux rencontres qu'on fait quand on en rencontre inter-école, des choses comme ça. Et je crois que ça s'est dilué aussi un peu dans ce qui se passe aussi actuellement dans le paysage théâtral européen. Et oui, je pense que c'était assez naturellement qu'on s'est tourné vers ces pays-là, surtout la Belgique, j'ai l'impression, parce que la Belgique, bon, enfin, en tout cas, personnellement, j'ai l'impression qu'ils ont 10 ans d'avance sur nous en matière de théâtre.
Bah, ça, c'est sûr.
C'est une question qu'on s'est posée à un moment donné. On s'est dit, on ne va pas faire une programmation complètement belge, parce qu'à un moment donné, on n'avait que ça. Je pense que c'est dans les questions de prise de risque, des choses comme ça, qui sont d'autres visions que le théâtre français, en tout cas français métropolitain, qui nous intéressait aussi. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'est tourné. Je pense que je vous laisse compléter et me contredire, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme ça, quoi.
Non, t'as tout à fait raison. Et c'est quelque chose qui existe presque depuis le début, en fait, dans le Festival Watt, d'accueillir des compagnies étrangères, pas que françaises. Et on a eu, il y a quelques années, une compagnie brésilienne. Mais c'est vrai que se pose la question de si on veut accueillir des compagnies autres que françaises, de comment faire, quel pays en particulier, et pourquoi un pays plus qu'un autre. Et c'est vrai que là, avec le projet de Bérangère, qui est d'accueillir un pays, de faire un focus sur un pays européen, ça a donné un petit peu une orientation qui était assez salutaire, parce que du coup, on a vraiment mené, c'est surtout Claire et Joséphine, deux comédiennes de la jeune troupe, qui ont mené ce travail-là de recherche aussi de comment fonctionne l'émergence du pays en question, l'Italie. Et donc, ça nous a permis de trouver un angle tout de suite pour réaliser cette programmation de spectacles émergents italiens. Et c'est assez enrichissant.
Et si jamais ça peut faire peur à tes auditeurs et auditrices, parce que je repense à ça, là, tout à coup, mais 35-040 n'est pas en italien.
Oui.
C'est un spectacle italien, mais il a été adapté par le metteur en scène pour l'occasion justement du Festival Watt, où en Italie il le tournait avec un acteur italien. Là, il a fait l'adaptation avec un acteur français parce que l'interaction en italien peut être plus compliquée.
Tout le monde
un tour. Et du coup, voilà, c'est un acteur français, Édouard Penaud, qui fait l'adaptation en français.
Est-ce qu'à titre personnel, il y a un spectacle, une représentation que vous attendez particulièrement ?
Moi, personnellement, je mets pas d'ordre de préférence dans les spectacles parce que je pense qu'on fonctionne pas comme ça et moi non plus. Mais il y a quand même, si je dois le dire, je joue à l'exercice quand même. Il y a quand même un spectacle moi que j'attends un peu parce que c'est celui qui m'a posé le plus de questions pendant qu'on faisait nos réunions de programmation. C'est Je n'ai pas d'en parler. Je pense que c'est le spectacle moi qui parce que déjà je l'ai vu qu'en captation. Et j'avais envie de voir ce que ça donnait en vrai. Et c'est, moi, c'est le spectacle qui m'a posé le plus de questions. Justement, dans ces questions-là de texte, de parole, moi, c'est, je pense que c'est une théâtralité moi, dont je n'ai pas du tout l'habitude. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. Enfin, c'est un peu, et voir la réception aussi du public de cette théâtralité-là. J'ai hâte de voir ça. Enfin, vraiment, une vraie hâte. Donc, voilà.
Ouais, moi, d'une certaine manière, je te rejoins un peu parce que je suis assez curieux aussi de voir le rapport au présent qu'il peut y avoir en fait dans ce spectacle et avec les acteurs et la salle, comment ça peut se faire. Mais sinon, moi, je suis assez curieux aussi de voir par exemple la réception de Requin Velours aussi et de comment ce sujet qui est abordé, de toute la question de la réparation suite à un viol. Et à comment une personne qui a subi ce genre de choses se répare derrière et s'entoure de bonnes personnes pour se faire justice et retrouver de la libération là-dedans. Et du coup, je suis assez curieux de voir aussi la réception de ça. Et je pensais à autre chose ou pas ? Non, je sais pas. Je dirais principalement ça. Je suis assez curieux aussi de voir avec le public.
Et bah, moi, j'avoue que je suis assez heureuse que Lucky Flash vienne jouer au festival, puisque c'est une compagnie régionale qui est implantée à La Riche, très précisément, avec une metteuse en scène qui est passée il y a quelque temps aussi par le Théâtre Olympia, qui était en charge jusqu'à l'année dernière du Théâtre Universitaire de Tours, donc qui a quand même un fort ancrage régional, et c'est quelque chose qu'on défend aussi. Et c'est un très très beau spectacle, très fin, très sur un fil, avec un texte très bien écrit, très, très fin aussi dans la direction d'acteur. C'est très drôle et en même temps, il y a un côté un petit peu absurde devant lequel on se retrouve. Et après, au fur et à mesure de ça, se dégagent des questions de mais quelles sont les traces du passé qui restent et pourquoi celles-là ? Quelles sont les traces et les gens qui disparaissent et pourquoi eux ? Et c'est vraiment un très, très beau spectacle que je suis très contente d'accueillir, même si évidemment, on a vraiment tous validé la programmation et on est tous trop contents des 8 spectacles. Mais voilà, c'est pour le côté régional.
Ouais, moi, c'est à fond. Et pareil, ça m'embête de choisir un spectacle, mais en fait, parce que je relis, je feuillette la brochure et en fait, tous les spectacles, j'ai trop envie de voir...
Oui,
de revoir la réception de chacun, de Chimère et toute la poésie, de Homer et le Gromelot, et voir aussi comment dans une grande salle de 400 places ça va résonner. Enfin voilà, plein de choses.
Mais non, bien sûr, l'idée c'est pas de les hiérarchiser, mais plutôt de se dire bah, qu'est-ce que ça a évoqué chez vous, qu'est-ce qui vous interpelle en fait dans ces créations. Ouais.
On en sait déjà plus. Merci à vous pour cette belle programmation. Faisons une nouvelle pause musicale sur Radio Campus Tours. On écoute un des titres qui sera joué lors de la soirée de clôture Amour Super. Il s'agit de Mylène Farmer et son titre Désenchanté.
Changement d'ambiance sur Radio Campus Tours.
Trop lourd. C'était Mylène Farmer et son titre Désenchanté sur Radio Campus Tour, le 99.5. Vous écoutez l'émission Sortez. Et avec nous, la jeune troupe du Centre National Dramatique de Tours pour le Wet Festival qui se déroule du 28 au 30 mars 2025. Alors, ce titre sera joué lors de la soirée de clôture ce dimanche 30 mars à partir de 21h. Pourquoi Mylène Farmer ?
Mais pourquoi pas finalement parce qu'en fait ça fait partie de la forme qui sera donc jouée à cette fête là le dimanche soir. Cette forme s'appelle Amour Super et ce qui est assez spécial encore une fois avec ce truc là c'est que c'est une fête spectacle. J'arrive pas à le définir autrement que une fête spectacle. C'est vraiment un moment de partage où on crée une fête tous ensemble. Et pendant ce moment de fête, il distribue des feuilles avec les paroles de cette chanson. Et c'est le moment choral où tout le monde chante Désenchanté. Et c'est assez joyeux. Donc voilà pourquoi il sera là. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y aura pas que du Mylène Farmer. Il y aura de la danse. Il y aura des messages d'amour.
Il y aura la panthère.
Il y aura la panthère. donc je vous invite à venir voir vraiment ce qui se passera dimanche soir. Ça sera assez fun.
Mais oui, du coup, c'est quel type de soirée prévue ? Tu dis soirée spectacle ?
Vas-y.
Moi, j'irais même fête théâtralisée.
Ouais.
Enfin, je sais pas, mais c'est un spectacle festif et qui donne envie de faire la fête et qui donne, qui n'est pas un spectacle où on est assis à regarder quelque chose, mais c'est joué. Je saurais pas dire. C'est comme si c'était une fête organisée. Mais pris en charge par les gens et qui arrive à faire monter la sauce au fur et à mesure du spectacle. Quoi. Et on finit à écouter avec une bière et au début... on commence à écouter avec une bière et on finit en dansant.
Avec une bière.
Et en chantant avec une bière et trois bières.
Mais à poil, voilà.
Mais c'est ça, oui, c'est ça. C'est
alors, Lara, tu disais sur un thème bien particulier, oui. À savoir,
le thème de la soirée, c'est l'amour du kitsch. Donc, venez avec plaisir, mais habillez-vous en conséquence.
C'est ça.
Donc, pas complètement à poil.
Non, pardon. Non, sur une note un peu plus sérieuse, après, j'aime bien parler de gens à poil, mais enfin, voilà. ce festival, c'est aussi l'occasion de présenter donc, le réseau Puissance 4 en soutien et en accompagnement d'artistes émergents dans le cadre de rencontres professionnelles. Quels organismes sont impliqués dans ce réseau ?
Alors, en fait, Puissance 4, c'est un réseau professionnel qui a été créé en 2018 avec au départ quatre lieux. La Loge à Paris, le Théâtre universitaire de Nantes, le Théâtre Olympia, donc à Tours, et le Théâtre Sorano. Et puis, au fur et à mesure, se sont ajoutés le Théâtre 13 à Paris, le Théâtre Joliette à Marseille, la Maison des Métallos à Paris, le Théâtre des Célestins à Lyon et le Centre Dramatique National d'Angers qui s'appelle le Quai. Donc, c'est beaucoup, c'est puissance beaucoup plus que 4. et l'idée, c'est de fédérer les forces de ces lieux de spectacle qui ont tous un engagement assez important en ce qui concerne l'émergence. Et donc, ces structures choisissent 6 artistes qui vont être chacune implantés dans une région différente. Et ces artistes vont être soutenus de manière conjointe par ce réseau. Donc voilà, c'est l'idée vraiment de réunir les forces pour avoir un meilleur accompagnement des artistes choisis.
Samuel, non, très bien. Je voulais tenter un eye contact, mais on n'y était pas.
Trop concentré.
Ouais. Alors, ça demande un peu de projection, mais quelle perspective d'avenir vous auriez pour le Wet Festival ?
On parle des coupes budgétaires ?
Oui.
Non, mais c'est un. Enfin, vraiment, moi, j'en sais rien du tout. Enfin, je sais pas, parce que j'entendais aussi, il y a certains chiffres qui, par exemple. Sortes qui correspondent en fait complètement au budget du Wet Festival et qui par exemple après je sais que c'est pas dans l'idée de la direction en tout cas de couper le festival quoi, de mettre fin à ce festival par coupe budgétaire mais j'espère moi en tout cas qu'il durera et qu'il continuera de faire fleurir des projets et de rendre visibles des gestes artistiques forts quoi. Mais je sais pas vous, quelle perspective vous avez.
Oui, exactement la même chose que ce que tu dis. On espère que ce festival va pouvoir durer parce qu'on a, même de manière chiffrée, on sait que ça aide les artistes et puis le public. On a des bons retours du public des spectacles qui sont proposés aussi. Mais c'est vrai que dans la situation actuelle, avec les coupes budgétaires qui sont faites à la hache et dans un grand détachement, une grande indifférence, on peut vraiment se questionner sur la suite de ce festival, mais du spectacle vivant dans son ensemble. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une journée nationale de mobilisation. Il y a 2 heures, on était en manif.
Voilà, vous le disiez en arrivant, vous étiez mobilisés du coup pour les cultures en lutte en ce jeudi 20 mars, oui. Place Jean Jaurès.
Exactement.
Et si on peut parler de ça, moi j'hallucine un peu des budgets aussi qui sont alloués à la culture et au service public. Enfin, j'entendais par exemple, moi en école et à l'université, j'avais appris que par exemple le budget de la culture était tout le temps de 1% pas du PIB, j'allais dire, mais je sais pas. Enfin, en tout cas, c'était 1% du budget général de l'État qui était alloué à la culture. Et ça, depuis plusieurs dizaines d'années, que c'était une chose qui restait inchangée, qui se devait en tout cas de garder ça tout le temps. Et là, je me rends compte que cette année, c'est de 0,6%. Donc c'est quasiment la moitié, et que ça ne va pas sans doute pas repartir à la hausse, parce que en fait, au fur et à mesure qu'on diminue, en fait, l'inflation continue d'augmenter, mais en fait, on ne rehausse pas non plus le budget de la culture. Et en fait, c'est des effets aussi dominos, quoi, parce qu'au bout d'un moment, quand certains secteurs, les collectivités territoriales, entre les départements, la région et les communes, qui prennent en fait les 2/3, qui ont les 2/3, qui disposent des 2/3 du budget de la culture, et qui donnent du coup aux artistes et aussi aussi des temps pleins, des postes fixes dans des théâtres qui sont à temps plein, qui sont des fois coupés du coup à cause de ces coupes budgétaires, quoi. Et en fait, c'est des effets dominos, parce que si le département coupe des subventions, la région aussi à son tour, et en fait, ça ne va pas aller en hausse, quoi.
Et au-delà de...
Pardon, je te... Vas-y, vas-y, vas-y.
Au-delà de ces coupes qui affectent les gens qui travaillent dans le milieu du spectacle vivant et de la culture plus largement, au-delà des artistes et des emplois permanents qui sont impactés, et y a aussi toute la part du public. C'est-à-dire que là, par exemple, pour le Festival Ouest, les places, elles sont en tarif réduit à 5 euros pour les étudiants, les moins de 30 ans. On fait beaucoup de tarifs réduits, et à 10 euros en plein tarif. La soirée de clôture, elle est gratuite. S'il n'y avait pas de subvention publique, une place de théâtre, elle coûterait aux environs de 100 euros.
Ah oui.
c'est une chance énorme de pouvoir avoir ces subventions, et elles ne doivent pas diminuer. De la même manière, vous avez peut-être entendu parler du gel du pass culture, pareil, qui pénalise le public, plein de publics différents dans leur accès à des propositions culturelles et artistiques.
Et pour pas finir sur une touche un peu négative,
mais c'est quand même des rappels importants à faire. Oui, c'est sûr. Oui.
Sur quel autre projet on pourra retrouver la troupe au cours de cette année?
Là, on est en train de travailler sur la prochaine pièce de la directrice Bérangère Ventuseau, qui s'appelle pour le moment Faire le beau. Donc normalement, vous pourrez nous retrouver au Théâtre Olympia à la rentrée de la prochaine saison.
En novembre.
En novembre. Mais demain soir, on joue à Paris, au Théâtre 13, pour un projet qui s'appelle Croyance. Donc il n'y a pas que les membres de la jeune troupe, il y a aussi les membres, les comédiens et les comédiennes du collectif LSDI, la compagnie de Guillaume Pisani qui joue au Théâtre 13 en ce moment. Donc voilà.
Eh bien, merci beaucoup Lara, Luca et Félix d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Et donc la programmation complète est à retrouver sur le site du Théâtre Olympia.
Le podcast de l'émission est à retrouver sur Radio Campus Tour. On se laisse sur une touche de musique avec Tao de Demouja, issu de son EP Reality Check, sorti fin février. Et nous vous souhaitons une agréable soirée.
C'est-à-dire
Comment
Ouais, je rame.
Rame donc. Rame, Samuel.
On va passer à une prochaine question.
Comment est-ce que je peux dire ça? Hop. Magnifique, ça sort pas.
Radio Campus Tour, 99.5 FM.